Libre Radio, www.libradio.org, la radio qui n'en termine jamais. Voilà, donc nous sommes en direct et en public depuis la Villa Tacchini à l'occasion de la soirée Les Échos d'Afrique et en compagnie de Gérard Scheller et puis de Chloé Frémery qui ont mais ça c'est à chaque fois je le fais.
Mais ça veut dire que tu m'aimes bien.
Mais ouais, non, mais c'est parce que je sais pas pourquoi c'est.
Mais c'est pas un nom d'ici, hein. Il est nord de la France, ce nom.
Ouais, mais je sais pas pourquoi pour moi. Enfin bref. Alors vous êtes tous les deux co-autrices-auteurs de cette. De la balade, comment dire, autour
de
la visite guidée
des multinationales de Genève, ou transnationales plutôt, pour être exact.
Alors voilà,
je propose de contextualiser un tout petit peu la semaine.
Tout à fait, oui. Alors moi, je vais faire le petit pitch, et puis après, vous allez effectivement remettre ça dans son contexte, qui est la semaine, parce que la semaine entière a été constellée d'événements marquants concernant justement cette impunité. Et on observe par ailleurs quand même un petit peu partout dans le monde, de plus en plus, eh bien, les consciences s'éveillent. Et pour la première fois peut-être que est-ce inédit, mais vous allez nous le dire, que les populations se révoltent ou en tout cas se conscientisent et puis commencent à refuser ou en tout cas à être critiques par rapport à, notamment aux impôts, à toutes ces choses-là qui concernent les trans et les multinationales. Mais alors voilà, moi j'avais annoncé multi-transnational ou comment tout pourrir partout, récit de la balade entre la peste et le choléra, et je voulais encore dire quelques mots. Alors GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Yahoo, Twitter, LinkedIn et d'autres. Les actuels géants sont ainsi américains et surnommés GAFA ou GAFAM, qui est un acronyme constitué des géants les plus connus. On les
Google,
a cités.
On les renomme.
Et ou encore chinois et surnommés BATX, hein, pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Les Natu avec Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Et une des caractéristiques de ces géants internationaux est l'énorme volumétrie de leur base d'utilisateurs. Et pour donner quelques chiffres, hein, c'est quelques petits chiffres comme ça que l'on trouve facilement sur Wikipédia, Facebook serait utilisé par une personne sur 7 dans le monde, ce qui fait un chiffre complètement absurde. Google Gmail aurait 500 millions d'utilisateurs, Yahoo Mail en aurait 300 millions, Twitter aurait 500 millions d'utilisateurs, LinkedIn 200 millions, Amazon aurait 120 millions de clients. Alors voilà, ça c'est pour juste... placer quelques chiffres. Effectivement, on va immédiatement dire quelle est la différence entre une multinationale et une transnationale, à moins que Gérard, tu préfères commencer par justement le contexte de
cette
semaine. Alors,
pourquoi pas démarrer juste sur multinationale, transnationale ?
Ça clarifie immédiatement.
Multinationale est un mot qui est plus connu. On l'utilise assez volontiers à cause de ça. Les gens savent ce que c'est. Mais c'est vrai que, en tout cas, Suzanne George et peut-être un certain nombre d'autres au niveau du monde diplomatique avaient dit parlons de transnational plutôt que multinational, dans la mesure où une transnationale, c'est peut-être plus clair. Il y a un siège quelque part. Ce siège, du reste, il est très souvent en Suisse. Ça, faut le savoir. Et puis... eh bien, si on parle de transnationale, on comprend que cette multinationale, si on veut, a ses branches partout dans le monde, mais un siège, et c'est peut-être au siège qu'on pourrait l'attaquer juridiquement par rapport aux méfaits partout dans le monde. Et à propos de ça, eh bien, il y avait une réunion très importante, c'était la troisième de ce type à l'ONU, avec... une commission intergouvernementale qui négociait un traité disons, c'est la troisième négociation. Il y en aura une nouvelle en mars. C'est une bonne nouvelle parce qu'à un moment donné, on a eu peur que l'Union européenne mette tellement les bâtons dans les roues que ce serait fini vendredi passé. Et ça aurait été fini sans aboutir sur la chose principale qui est obtenir un tribunal qui permettrait vraiment d'aller attaquer les multinationales qui ne respectent pas les droits humains, les droits humains bien sûr, mais aussi les droits du travail les droits environnementaux. Ouais, ouais, hein, c'est-à-dire que c'est un peu les trois niveaux sur lesquels les multinationales actuellement ne sont pas responsables. Et c'est bien à propos de leur responsabilité que cette semaine s'est organisée à l'ONU. Alors il y avait une pression d'ONG de tous les pays. Il y avait 130 internationaux à Genève qui se sont réunis. Je pense qu'à la au bout, il devait y en avoir 160, 170 avec les gens qui venaient de plus près. Eh bien, ces personnes-là se sont vues toute la semaine et faisaient pression sur les gouvernements pour que cette session de l'ONU soit la plus fortement réactive et la plus efficace possible. Et pour faire ça, un certain nombre d'ONG ont décidé d'écrire un traité eux-mêmes et de le remettre à la présidence, qui était la présidence de l'Équateur. Et on a vu le geste de la remise de ce traité à la Maison des Associations lundi, le premier lundi, donc le 23 octobre. Et c'était impressionnant parce que le président de l'Équateur, enfin le négociateur de l'Équateur, qui était président de cette commission, recevait le traité que j'ai dans la main en ce moment et qui s'appelle Traité sur les sociétés transnationales et leurs chaînes de valeur en matière de droits humains. D'accord ? Et c'est une proposition de texte qui a été mûrement réfléchie, qui est très dense et qui vaut la peine d'être lu.
Ouais. Alors on va peut-être tout de suite rappeler le site internet qui a recueilli tout le programme de cette semaine qui était extrêmement intense. Hein. Donc c'est le site suivant, www.stopcorporateimpunity.org. Je vais appeler stopcorporateimpunity.org. Et effectivement, cette mobilisation eh bien, a duré toute la semaine sur différents lieux, voilà, avec différents partenaires.
Il y a eu par exemple une conférence qui a été très bien suivie à l'UNI, à Unimail, le lundi, le 21, le 23 je veux dire, et c'était une conférence dans laquelle on a eu des témoignages extrêmement poignants, dans lesquels des personnes de différents pays du monde racontaient en quoi les multinationales détruisent leur vie. Je crois que c'est vraiment clair.
Ouais, absolument. Alors, tu as dit hein, qu'effectivement, Genève, il se trouve que c'est un lieu central parce que c'est le siège de beaucoup de multinationales, ou de transnationales, pardon, et que ça, ça veut dire quelque chose. Alors, pourquoi ces sièges se trouvent-ils ici, selon vous ?
Alors, les raisons sont multiples. J'en ai toute une liste sous la main.
J'imagine.
Alors, ce n'est pas forcément que pour les impôts. Alors, évidemment, elles ont droit à des traitements de faveur. Elles payent à peu près 0% d'impôts, en général. Alors, donc, ça me fait doucement rigoler.
Voilà, il faut dire qu'il y en a qui ne payent, qui ne payent pas.
Parce qu'il y a ce qui est officiel et puis il y a les arrangements qui se passent avec les différentes autorités, conseils d'État et autres. Alors, ce que j'allais dire, c'est que ça me fait doucement rigoler avec la réforme des entreprises. Je bifurque un peu là-dessus parce qu'on a dû voter récemment dessus et le peuple a refusé, bien heureusement. Mais il nous prétendait baisser les impôts des entreprises à 13% alors qu'en fait, elles sont bien en dessous. Actuellement, enfin les grandes entreprises,
bien sûr.
Les petites PME locales,
on est bien
d'accord qu'elles vont payer comme nous,
plein
impôts et puis plus si affinité. Donc non, il y a cette histoire d'arrangements fiscaux et il y a aussi une certaine stabilité politique à Genève et en Suisse en général. Il y a toutes la proximité avec les entreprises qui permettent de faire du business. Il y a beaucoup de banques qui peuvent accorder des crédits, c'est-à-dire créer de l'argent, on va pas revenir sur ce dossier-là, mais leur fournir toutes les finances nécessaires. On a toutes les activités possibles autour du commerce, donc il n'y a pas que les banques, il y a les entreprises de trading notamment, il y a de la main d'œuvre qualifiée, enfin des personnes qui sont qualifiées, il y a aussi des facilités pour faire du dumping salarial puisqu'on a des frontaliers quand même qui ne demandent pas mieux que d'être engagés à des salaires défiant toute concurrence, enfin hyper bas en fait, et c'est bien pour ça aussi que je pense que la propagande a été forte sur l'empêchement d'un salaire minimal en 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui.
On avait voté pour avoir ça passé. On a la force du franc suisse. On a des infrastructures qui sont bien développées. On a l'aéroport, peut-être je l'ai dit juste avant, qui permet de faire des échanges beaucoup plus facilement. On a un droit du travail extrêmement faible qui permet toutes les dérives. On a des écoles privées pour les enfants aussi, il faut pas l'oublier.
Mais bien sûr,
on a des logements intéressants.
Au moins deux vitesses qui permet.
On a le ski aussi, qui est juste à côté pour les hélicoptères, enfin à portée d'hélicoptère. Hein,
c'est un beau lieu de villégiature, hein, Davos.
Ouais, c'est
également,
ça.
Pas
donc
loin.
Ça, c'est un petit résumé de tout ce qui fait la force de ce lieu, en fait.
C'est clair. Et puis comme tu l'as dit, il y a effectivement aussi des connexions avec le monde politique qui sont extrêmement évidentes à Genève par le truchement que ce soit de l'ONU ou d'autres
institutions. C'est ça. Il y a aussi toutes les organisations internationales qui sont là.
Et les groupes dont on nommera pas, comme tel Bilderberg et compagnie, qui
recrutent chez nous.
Exactement.
Un MoDep, pour rappel, 2015, il a absolument été un invité d'honneur.
Donc on comprend bien qu'effectivement, c'est un terrain fertile que l'on trouve ici en Suisse pour ces prédateurs, hein, parce qu'il s'agit de prédateurs qui s'y installent et puis qui, du coup, parce qu'il ne faut pas qu'on le mette, mais c'est vraiment avec le blanc-seing des politiques et des caciques au pouvoir que ces transnationales se permettent évidemment toutes ces dérives.
C'est ça, elles peuvent prospérer en paix, elles ne sont pas dérangées.
Alors, comment ça s'est passé cette semaine revenons un petit peu sur cette semaine avant de partir en balade au travers de ces... entre la peste et le choléra, comme on le disait tout à l'heure. Cette semaine, qu'on a pu constater que les gens étaient présents, la société civile.
Alors, tout à fait. Il y avait en fait plusieurs endroits où on les a vus. Alors, il y a eu cette soirée du lundi, c'était beaucoup plus large que le reste de la semaine, puisqu'en fait, un certain nombre de Genevois qu'on n'a pas vu après avaient pu venir, c'était un soir et tout. Et puis tout le long de la semaine, il y avait en fait, à l'intérieur de l'ONU, ces internationaux qui avaient leur place en tant qu'ONG et qui allaient suivre les débats de façon intense. Il y a même eu une réunion à laquelle j'ai assisté, où les internationaux ont fait ce qu'on appelle à l'ONU un side event, donc un événement parallèle. Et cet événement parallèle, c'était en fait la lecture et l'interprétation du traité proposé à la présidence équatorienne. Hein. Voilà. Alors il y avait cet élément-là à l'ONU avec une pression par le fait que ces gens qui étaient là, par le fait qu'ils étaient dans la salle, quelque part, marquaient leur présence. Et puis il y avait sur l'extérieur de l'ONU une tente montée en après-midi au moment de la conférence de presse le lundi et qui est restée toute la semaine avec des ateliers. Et alors, beaucoup d'ateliers, il y a eu des ateliers sur le féminisme, il y a eu des ateliers sur le droit du travail, etc. Il y en a un qu'on a géré,
sur le libre-échange, évidemment, c'est notre dada, c'est TISA et tous les autres traités, CETA, TAFTA, puis d'autres qu'on connaissait pas, en fait, qui sont pratiqués en Asie, au Maroc. On en a une flopée, je crois qu'il y en a des milliers, en fait, des traités de libre-échange qui sont déjà signés. Et qui en fait mettent à genoux les États, les gouvernements et les populations.
Et dont on n'a pas idée. N'a pas idée en fait.
Ouais. Qui sont complètement secrets.
Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en deux jours, là, on avait sous la main tellement d'internationaux qui avaient des choses à dire qu'on a pu les amener à cet atelier. L'atelier était vraiment très riche.
Très riche.
J'ai beaucoup aimé cet après-midi du jeudi de cette semaine-là. Ouais.
Alors, ça, c'était pour le premier jour, hein, le lundi. Puis ensuite, tout au long de la semaine...
Les ateliers dont on parle, c'est en fait des ateliers qui ont eu lieu chaque jour.
Chaque jour, voilà.
Et exactement. Là, c'est l'atelier sur le libre-échange, c'était le jeudi de la semaine.
OK. Mais cette tente, donc, est restée toute la semaine. Vous avez siégé devant l'ONU.
Voilà.
C'est ça.
Voilà. Ils avaient teint les petits jets d'eau parce que...
Ils ne voulaient pas trop nous mouiller. On avait une tente en forme d'igloo, c'était assez marrant.
OK. Et puis alors
Mamadja, bien sûr.
Oui, mais évidemment. Alors... Comment ont réagi les gens? Est-ce que les gens se sont affolés, ont compris, ont été alertés? Je veux dire, est-ce qu'il y a une acuité par rapport à ça? Ou est-ce que vous êtes tombé sur des gens qui, de passage, n'en savaient rien? Enfin, quelle population vous avez trouvée?
Non, en général, c'était plutôt des personnes déjà au courant, mais qui venaient chercher des choses très précises. Et vu qu'il y avait ces internationaux, c'était vraiment très, très enthousiasmant parce que
ils connaissaient en partie en général le sujet et ça complétait complètement ce qu'ils connaissaient.
Okay. Voilà. Alors pour donner un exemple, à la fin de la conférence de presse le lundi, il y a eu un happening par rapport au mur. Et bien sûr, ça fait référence au fameux mur de Trump aux États-Unis, mais ça fait référence au mur de Palestine. Les différents murs.
Puis au mur qu'on met nous, enfin en Europe en tout cas, contre les migrants.
Contre les migrants, tout à fait. Donc ça veut dire que il y avait quelque chose aussi très fort. J'ai trouvé très symbolique, très.
Et du coup, là, parce qu'après, on va parler évidemment de cette balade que vous avez organisée et qui a justement eu un écho dans la presse. Mais cette semaine, a-t-elle été relayée par les médias? Est-ce qu'il y a eu quand même
alors
des journalistes?
Alors, il y a eu un petit événement qui a été mal relayé, à notre avis, et qui était quand même assez important. C'est la question des pipelines aux États-Unis,
au Dakota,
et Canada, Dakota et tout. Et il y avait présent à Genève, un peu lié à l'événement, mais aussi pour d'autres raisons, des indigènes qui venaient défendre leurs terres contre ces pipelines. Et il y avait une accusation très nette du Crédit Suisse qui a mis...
1,4 milliard, c'est le premier investisseur en fait dans le pipeline, dans l'oléoduc.
Dans le pipeline en question. Ouais, oui. Et il y avait devant le Crédit Suisse une manifestation avec des pseudo-pipelines qui étaient assez bien réussis.
Des sacs en plastique noir qui tenaient lieu de pétrole, c'était impressionnant.
Et qui entraient aussi dans la banque. Avec des indigènes qui ont fait des discours tonitruants à l'intérieur de la banque et une relative, disons, acceptation de la part de la police. C'est ils vrai. Étaient là, mais ils ne sont pas intervenus. C'était pas long, hein, c'était une demi-heure. Mais c'est assez intéressant. On a pu avoir un événement qui, médiatiquement, pouvait partir au moins sur les réseaux sociaux. Et malheureusement pas assez dans la presse.
Mais ça dépend aussi de qui on contacte au préalable. Nous, c'est vrai qu'on a pris les devants, on a quand même contacté le courrier et puis d'autres personnes avant.
D'accord. Et alors, vous pensez, s'il fallait tirer un bilan de cette semaine, lequel serait-il pour vous? Est-ce que c'est quand même un bilan positif? On a pu instiller cette contre-information dans les populations, selon vous. Qu'est-ce que vous en tirez de cette semaine?
Je laisse Gérard commencer.
Non, mais alors... Moi, je suis enthousiaste parce qu'en une semaine, on fait 10 fois ou 50 fois ce qu'on ferait dans une semaine normale. C'est parce que tout converge pour avoir des exemples de ce qu'on essaie de défendre tout au long de l'année. Quoi.
Oui. Moi, je regrette quand même une chose, c'est qu'à mon avis, la communication au-delà de nos réseaux internes de militants, je trouve qu'elle n'est pas assez développée encore. Moi j'ai des camarades, des amis qui sont pas du tout dans l'activisme, qui n'étaient pas au courant et que évidemment j'informe et puis que Gérard et puis que tout le monde informe, mais tant que les journaux de masse n'ont pas vraiment mis ça en une, il y aura quand même un recul par rapport à...
Mais la dynamique est la bonne, le chemin entrepris est le bon.
Le chemin il est complètement bon, surtout que ça passe par l'ONU cette fois, c'est pas des organismes isolés qui fomentent
alors c'est bien parce que c'était la transition que je voulais. On parle d'isolement. Est-ce que là, on constate au travers justement de ce type de mobilisation et de campagne que les associations font corps, elles se rejoignent, qu'ensemble on arrive, parce que c'est ensemble qu'on va arriver certainement à bouger ces montagnes. Est-ce que là, on a cette sensation-là? Parce que ça nous a été reproché d'être un petit peu isolé et des fois même contradictoire.
Avoir des factions opposées. Ouais. Ouais.
Est-ce que là, on dépasse tout ça et on arrive à quelque chose?
On dépasse ça, mais quelque part, les personnes les plus investies déjà en amont de l'événement, c'était le 7e au niveau de Genève. Mm-hmm. Hein, alors bravo à eux, je veux dire, ils ont participé très fortement à l'écriture du traité des ONG. Là. Et puis il y avait un peu, je dirais, solidarité. Partie du travail, on a vu une ou deux personnes.
Attaque.
Et puis attaque. Plus loin que ça, il y a quand même un certain nombre de... Oui, non, je ne suis pas gentil. Il y a aussi des gens de...
De Via Campesina, de
Via Campesina et de Palestine.
Ok.
De soutien à la paix du CUP. Du CUP et de
Public
Eye BDS.
Aussi.
Hein.
BDS, non?
BDS aussi.
Un petit peu, ouais. Ouais, bon. Très bien. Alors, ça veut dire que le bilan est quand même favorable et que L'idée, c'est quoi? L'année prochaine, on remet ça?
Alors déjà, comme disait Gérard, ils vont revenir. Il y a le volet numéro 4 qui va avoir lieu en mars. Et dans ce cadre-là, ça me permet de souligner le fait qu'on a ce forum, ce contre-sommet des matières premières à Lausanne, qui a lieu en mars aussi, et dont le sujet est les matières premières. Donc, on va essayer en tout cas d'avoir des intervenants du CETIM ou des organisations dans le cadre de ce traité qui interviendraient durant le forum. C'est le 17 mars déjà pour si vous voulez noter. Samedi 17 mars.
Samedi 17 mars, on sait déjà dans quel.
Ce sera à Lausanne.
À Lausanne, très bien.
À Lausanne. Ouais.
Parce que là, effectivement, concernant les matières premières, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Même typiquement en 2018, il y aura certainement aussi l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui va jouer. Où on sait que notamment le nickel, mais également d'autres matières premières sont depuis des décennies
pillées
par, là-bas. Par la France métropolitaine.
J'ajoute que le format, c'est le samedi 17 en forum et le lundi 19, une manifestation dans les rues de Lausanne le soir pour aller rejoindre Beau Rivage où se
trouvent les criminels.
Ben oui, absolument. Alors, selon vous, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on va trancher toutes ces têtes de l'hydre successivement? Est-ce qu'on va arriver à les déceler, à les identifier, ces têtes? On a parlé GAFAM, etc. On sait a priori qui sont ces gens des multinationales responsables. Alors maintenant, comment faire pour justement arriver à les neutraliser d'une certaine manière? Ou en tout cas, en réduire un maximum les nuisances?
Pour moi, c'est comme les vampires, il faut les exposer à la lumière. Pour moi, ça passe vraiment par l'information, par la médiatisation. Tant que les gens ne sont pas conscients, ils ne peuvent pas combattre le problème. Mmh. Et là, avec ce qui s'est passé cette semaine, la semaine dernière, je pense qu'il y a eu une vraie avancée. Même si, comme je te disais, je déplorais quand même un manque de médiatisation, mais il y avait quand même tout un espèce de mouvement autour de ça, dont cette visite des multinationales vendredi qui est passée dans les journaux, qui, je pense, participe à une prise de conscience générale.
Ouais. Après ça, je pense que on va rien arriver à faire en culpabilisant les multinationales.
D'accord.
Ce qu'il faut, c'est des lois et pouvoir les attaquer. Et pouvoir les attaquer en justice. Et c'est tout l'objet de cette négociation à l'ONU, c'est d'obtenir à la fin un tribunal qui peut être un tribunal existant ou qui peut être spécifique à cette question de l'impunité des multinationales et qui soit la conséquence du traité. Alors si on arrive jusque-là, là on va arriver vraiment à envoyer en justice toute une série d'événements qui dans le monde jusque-là sont restés dans l'impunité.
J'ai envie de dire à rétablir une forme d'équilibre parce que pour l'instant c'est elles qui ont la main.
Absolument. On en revient à ces traités contre notamment TISA, TAFTA, tous ces traités-là contre lesquels vous vous battez fort.
Et mais nous, c'est un petit peu le pendant, le contraire de ces traités de libre-échange qu'on essaie de mettre en place. Et il y a juste une information que j'ai depuis peu, qui est pour moi assez réjouissante, c'est qu'en France, il y a une loi qui a été votée en mars dernier, qui va être mise en application à partir de 2019, bon, c'est pas tout de suite, mais quand même, qui consiste à prévenir les attaques graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes pour les multinationales, pour les transnationales et les multinationales. Et y compris les sous-traitants et les fournisseurs de ces entreprises.
Ouais.
Donc c'est quelque chose de concret qui a déjà été voté. Après, il faut que ça soit appliqué.
Exactement.
Mais si on multiplie ce genre d'initiative, ça peut que aboutir à un changement de paradigme.
Absolument. Et puis on le rappelle, on a ce problème vraiment avec ces sièges sociaux qui sont en Suisse et qui siphonnent des fois les entreprises. À l'exemple de Caterpillar en Belgique, on a vu qu'effectivement les financements, enfin en tout cas les bénéfices étaient rapatriés en Suisse pour ensuite dire qu'en fait les succursales ne faisaient pas de bénéfices et donc du coup justifier des charrettes. Et donc on vire des ouvriers de manière totalement illégitime, mais de manière légale, en faisant un montage financier, tout simplement.
Il y a mieux que ça. Starbucks, il est champion. Il déclare des pertes, depuis le début. Donc, soi-disant, Starbucks n'a pas de bénéfices.
Ouais.
Donc, il ne paye pas d'impôts.
Voilà.
Et puis, alors, on peut relever qu'en Suisse, on a aussi une initiative. Hein. Quel est son nom, déjà?
Alors là, tu me donnes une
connerie. Oui, d'accord. C'est une initiative qui a été signée, qu'on va voter par rapport à disons, une...
Attends, je cherche.
Ouais, ça serait intéressant de chercher.
On vous donne le nom d'ici...
Oui, si on va faire une petite pause musicale.
Mais cette initiative, elle permettrait de faire un peu l'équivalent de ce qui vient d'être décrit en France, okay. Hein, au niveau suisse.
Alors, bah, ça tombe bien. Je propose que l'on fasse une petite pause musicale. Comme ça, on boit un petit coup, on réfléchit, on trouve cette information-là. Et puis, on reviendra avec
ouais,
cette info.
Oui, tout à fait. Ça va être important.
Ouais, et puis,
et on avait des liens cette semaine avec ces gens-là. Mais j'ai juste...
Ah voilà, je crois que c'est initiative multinationale responsable, tout simplement. Voilà.
Ouais, tout à voilà. Mais ça fait un mal.
Voilà. Ouais. Et on
donnera plus
signé,
de détails après.
Et il faudra voter massivement pour cette initiative, hein, ouais. Ce qui n'est pas gagné. Hein, parce que le Conseil fédéral, ils ont dit oh, mais ça suffit de rendre, disons, conscients les multinationales.
Oui, donc, récemment, en septembre, ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin d'aller dans une loi si contraignante.
Bien sûr, évidemment.
Parce qu'elles allaient faire toutes seules leur travail d'introspection et de. Se rendre compte
des
de ce
clous,
que nous
des clous.
C'est clair,
bien sûr.
Récemment, la dernière petite nouvelle assez intéressante, c'était, je crois, à Freiburg, où le journal parlait de Haribo et de la manière dont les ouvriers étaient traités. Mais ce n'est pas à la limite, c'est carrément comme des esclaves pour fabriquer ces petits bonbons
c'est
qu'ensuite on
bonbons
va donner.
Des bonbons à base de porc.
Ouais, exactement, des bonbons nocifs.
Et de colorants
synthétiques enfin,
cancérigènes, ouais. C'est magnifique.
Allez, petite pause musicale et on vient pour la suite des opérations. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 20h30 à peu près, en direct depuis et en public depuis la Villa Tacchini au moment où justement ouvre les portes de la soirée des Échos d'Afrique. Et si tu souhaites interroger par contumaz, donc depuis ton refuge, chère auditrice et auditeur, eh bien tu le fais à l'adresse suivante info@libradio.org ou alors via la page Facebook de l'émission. Je te le rappelle, nous sommes en train de parler de la mobilisation des peuples hein, dans le cadre de cette semaine-là qui a eu lieu c'était du 23 au 27 octobre.
Exactement.
Eh bien, là, nous allons parler tout à l'heure de la balade au travers des multinationales que ont organisé Chloé Framery et Gérard Scheller.
Voilà. Oui.
Petite pause musicale et on y va.
To my heart.